Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour, 3 novembre 2023, publication du décret pour renforcer les sanctions d'activité occasionnant de la pollution lumineuse. Qu'est-ce que la pollution lumineuse et quels dégâts entraîne-t-elle sur le vivant? Comment était-elle sanctionnée et régulée jusqu'à ce nouveau décret? Quelles activités sont concernées par ce décret? Quelles améliorations peut-on attendre de ces nouvelles sanctions? Ce soir, levez les yeux vers le ciel. Et si vous avez la chance d'un ciel sans nuages, vous verrez, en ville, peut-être une ou deux étoiles. Nous sommes bien loin de pouvoir observer les quelques centaines de milliers d'étoiles de la Voie lactée. Cette invisibilité des étoiles est liée à nos activités nocturnes. La pollution lumineuse étant évaluée par satellite, on peut avoir un regard à travers le monde des niveaux de pollution lumineuse. Sur le territoire à proximité d'Arras, l'évaluation de l'Observatoire national de biodiversité classe notre ciel étoilé comme fortement impacté par la pollution lumineuse. Éclairage de rue ou de route, activités nocturnes dans les industries, panneaux publicitaires, guirlandes lumineuses et devantures de magasins envoient dans notre environnement proche une lumière qui, cumulée à des particules de pollution, vont créer ce qu'on appelle un halo lumineux, une lueur diffuse qui englobe désormais la grande majorité des villes et s'étend sur des dizaines de kilomètres. Papillons de nuit, vers luisants et autres insectes nocturnes, grenouilles, crapauds, oiseaux migrateurs, rapaces nocturnes, animaux lucifuges et mammifères chasseurs de nuit figurent parmi les premières victimes de la pollution lumineuse. Attirés par la lumière, piégés par celle-ci ou encore incapables de franchir cette barrière lumineuse artificiellement créée, ces individus nocturnes ou chassant aux heures d'activité, à l'aube et à l'aurore, sont largement perturbés par ce phénomène. Quand on parle d'animaux lucifuges, pensez à ceux qui ne remontent jamais à la surface du sol. Vous savez, la majeure partie de la biodiversité présente dans les sols, ce support de vie encore méconnu de nos villes. À noter que, contre toute intuition, les dégâts de la pollution lumineuse sont aux heures de forte activité biologique, plus ou moins une heure avant et après le coucher et lever du soleil. Fait qui, pour l'instant, n'est pas dûment intégré dans les documents réglementaires. Quant au végétal, le pouvoir de s'orienter et de caler toute son horloge biologique sur la quantité de lumière perçue, hiver, été par exemple, est totalement déréglé. Vous avez sûrement déjà vu un arbre étrange, poussant à proximité d'un lampadaire. Regardez-y un peu plus attentivement et vous distinguerez, surtout à cette saison automnale, que la proximité avec le lampadaire va influer sur la répartition du feuillage, sa couleur, ou encore sur la silhouette même de l'arbre. Il est ainsi établi que la pollution lumineuse va largement influer sur la germination, la floraison et l'ensemble du cycle du végétal. Et l'humain dans tout ça? Quid de l'impact de cette luminosité perpétuelle? Chez l'humain, la pollution lumineuse est suspectée de dérégler l'horloge biologique, d'altérer le système hormonal qui a besoin de 5 à 6 heures d'obscurité pour bien fonctionner, et la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui affecte le sommeil, la reproduction et le vieillissement. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour comprendre ce phénomène, revenons à notre fameux décret pour sanctionner cette pollution lumineuse. Dans la réglementation française, ce n'est pas la première fois que l'on tente de mettre en place des règles bien précises pour limiter ce phénomène. En 2013 et 2018, un arrêté du Code de l'urbanisme fixe des mesures pour qu'au fur et à mesure du renouvellement urbain, les nouvelles installations lumineuses soient en cohérence avec les exigences environnementales, et ce, tout en donnant des règles bien précises sur les plages horaires d'éclairage des infrastructures existantes. Concrètement, fini les lampadaires boules, fini les surfaces réfléchissantes avec des luminaires au-dessus, ou encore les lumières orientées vers le ciel, comme les spots de monuments historiques ou les enseignes publicitaires. Fini l'éclairage trop intense, on pense notamment en période de fête. La lumière blanche des LED doit être remplacée par une lumière avec moins de lumière bleue et plus de lumière jaune. Pour ce qui est des plages horaires, cela se décline par type d'activité. Ainsi, les bâtiments non résidentiels et les vitrines des magasins doivent éteindre au maximum une heure après la fin officielle de l'occupation des locaux. Et les façades de bâtiments sont éteintes à 1h du matin au plus tard. Venons-en maintenant aux nouvelles sanctions encourues pour les rigolos à la guirlande illuminée en continu. Le décret habilite les agents municipaux à verbaliser avec une amende 5e classe les infractions à l'obligation d'extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique et aux prescriptions techniques incombant aux installations lumineuses. La note peut être salée. 1 500 € pour le premier délit et 3 000 € en cas de récidive. Merry Christmas pour les chauves-souris et les papillons de nuit. En réponse aux effets néfastes constatés sur les populations animales, humains compris, et sur les communautés végétales, certaines communes adhèrent à une nouvelle politique de l'environnement nocturne via le label Ville et Village étoilés, déjà plus de 700 communes françaises avec le label, tandis que d'autres signent l'appartenance à une charte de réserve internationale de ciel étoilé, classement dont bénéficient déjà 6 territoires en France. On peut alors se demander comment mettre en place ce type de politique dans de très grandes villes, voire des communautés de communes. Pour inspiration, intéressons-nous un court instant à la ville de Lyon. Depuis mai 2023, la ville de Lyon applique son 3e plan Lumière. Il s'agit d'un outil de référence pour accompagner la mise en lumière de son territoire. Qu'il s'agisse des paysages nocturnes, du patrimoine emblématique ou de la biodiversité, ce nouveau plan Lumière souhaite prendre soin de Lyon la nuit. Pour rappel, l'histoire de la ville est étroitement liée à celle de la lumière. Depuis 1989, dans la dynamique du premier plan Lumière, la municipalité a considéré la lumière comme un outil de transformation urbaine à part entière. Un élément constituant de son patrimoine qui fait partie intégrante de l'identité de la ville. L'un des défis que souhaite relever la ville de Lyon dans ce 3e plan est de prendre en compte les enjeux environnementaux et de biodiversité tout en intégrant pleinement ceux de la sécurité et de la créativité qui font la fierté et l'identité lyonnaise. L'amélioration du confort comme du sentiment de sécurité ne passe pas obligatoirement par l'augmentation de la lumière, mais plutôt, d'après ce 3e plan Lumière et les rapports de police, par la plus grande qualité de la lumière. Ainsi, l'obscurité est une ressource du territoire. Ce 3e plan Lumière permet d'adapter le plus finement possible les niveaux d'éclairement aux besoins et aux usages, en considérant l'obscurité comme partie prenante de la mise en lumière. Il contribue également à la construction du tram noir, urbaine et subtile, au service de la biodiversité et de la qualité du paysage nocturne, ainsi qu'à la réduction de la pollution lumineuse. En ce sens, le plan Lumière a également pour objet de lutter contre la surenchère lumineuse, dite cacolumie, suréclairage des vitrines, écrans numériques, enseignes, de façon à préserver la santé et la biodiversité. En ce sens, la ville a développé un cahier de recommandations portant sur la lumière privée. Citons la déclaration de la mairie de Lyon sur ce nouveau plan Lumière.
La lumière est un outil fabuleux pour embellir et façonner la ville. Ce 3e plan Lumière porte l'ambition de poursuivre une aventure entamée il y a plus de 30 ans. Je fais le pari que nous saurons considérer le paysage nocturne comme un bien commun, allier sobriété énergétique, respect du vivant, appropriation citoyenne, gouvernance plus affirmée sur la lumière privée et affirmation de la dimension poétique et patrimoniale du plan Lumière.
Et si nous n'avions plus peur du noir ? Pourrions-nous éteindre les lumières et nous laisser guider par d'autres moyens ? Tendons un instant la feuille au récit de jeunes âmes courageuses à la conquête de l'obscurité. Balthazar n'a pas peur du noir, et Pépin, presque pas non plus.
Il faisait nuit. C'était une belle nuit étoilée. Balthazar et Pépin s'étaient assis sur le banc du jardin à l'arrière de la maison.
« Tu sais, Pépin, dit Balthazar, ce que j'aime le plus dans la nuit, c'est la lune. »«
Moi, c'est les étoiles, dit Pépin, parce qu'il y en a plein. Même s'il y en a une ou deux qui s'éteignent, il y en a toujours des milliers qui brillent dans le ciel. »«
La nuit, c'est quand il fait vraiment nuit, dit Balthazar. On peut voir et entendre des choses. » qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas quand il fait jour.
Ah oui ? Comme mes dents qui claquent, tu veux dire ? Dit Pépin.
Non, je pense au ver luisant, qu'on voit dans le noir. Comme s'il avait une petite lampe dans sa poche. Sauf qu'il n'a pas de poche. Et pas de lampe. Je pense aussi aux yeux du chat qui brillent comme des émeraudes dans la nuit. Et puis il y a le silence qui fait qu'on entend de très loin certains sons. Comme le hurlement de la chouette. Écoute bien, on va peut-être en entendre une.
Oui, oui, j'ai entendu, c'est super, dit Pépin en se dirigeant à grands pas avec ses toutes petites jambes vers la maison éclairée. Bonne nuit, moi je vais au lit. Balthazar s'est couché. Il lit encore une page de son livre favori, La vie des chauves-souris et des vers luisants. Puis il bâille et éteint la lumière. La chambre s'emplit de nuit. C'est un moment très agréable, se dit Balthazar. Il ferme les paupières et sourit en pensant à la lune et à la petite lampe des vers luisants.
Bonne nuit, Pépin.
Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit et bonne nuit.
Oui, merci, toi aussi, Pépin. Mais tu sais, tu peux me dire bonne nuit juste une fois.
Je dis aussi bonne nuit aux monstres cachés dans l'armoire, à ceux sous le lit. Et à celui qui est derrière la porte.
Mais Pépin, il n'y a personne dans l'armoire. Ni sous ton lit, ni derrière la porte. Je t'assure.
Bien moi, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est tout, dit Pépin.
Alors va voir dans l'armoire, regarde sous ton lit et derrière la porte.
Pépin ne dit rien. Il n'a pas du tout envie d'y aller. Il se penche et regarde sous le lit.
Tu peux mettre ma cape de Zorro si tu veux. Et je t'éclaire avec ma lampe de poche.
Pépin saute du lit et enfile la cape de Zorro, le super-héros qui n'a jamais peur de rien et qui s'en va dans la nuit sur son cheval noir au galop. Il ouvre l'armoire, il entre dans l'armoire et là, dans le noir, il voit...
Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'armoire ? Demande Balthazar.
Pépin ne voit rien, mais dans le noir, il imagine qu'il voit tout ce qu'il redoute et qui lui fait peur. Que voit-il ? Je vois une araignée toute noire. Un loup tout noir, un gros monstre tout noir, une chauve-souris toute noire et une baleine blanche toute noire. Pépin sort de l'armoire, il regarde derrière la porte de la chambre, ne voit rien ni personne et se dit qu'il en a assez d'avoir peur de tous ces monstres et qu'il aimerait bien dormir maintenant. Alors, sur un ton royal, il ordonne « Ça suffit, tout le monde au lit !» Et vous savez quoi ? Tout le monde lui obéit.
Bonne nuit, tout le monde, dit Balthazar.
Bonne nuit, Balthazar, dit Pépin en bâillant. À la lueur des étoiles, Pépin et tout son monde imaginaire s'endorment, un peu serré, mais bien content.
Choisissons un pépin. pour nous aider à franchir le cap de ce cycle nocturne restauré. La réflexion est menée sur tout le territoire français, mais c'est bel et bien Hauts-de-France, dans le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, que nous retrouvons une initiative artistique en faveur du vivant. Cette fin d'année 2023, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, assisté de la région, a lancé un appel à candidature pour deux résidences d'artistes sur le thème « Artistes sous les étoiles » ou « Comment accepter la nuit ». Les candidatures ont été clôturées le 15 novembre dernier et les résidences débutent dès février 2024. Pendant 4 mois, l'artiste ou le collectif devra partager son univers artistique, ses savoirs et ses expériences avec les habitants et investir avec eux l'histoire et l'imaginaire liés à la nuit. Ancré sur la thématique de la trame noire et de ses enjeux, fortement imprégné de la démarche artistique propre aux artistes résidents, et destiné à en favoriser la familiarisation ou la mise en proximité, les gestes artistiques se veulent toujours très simples. Ils peuvent être participatifs, en impliquant les habitants, jeunes, adultes, enfants. Ou bien il peut être spectaculaire ou modeste, planifié ou surprise. Gardons donc un regard sur ce mouvement en faveur d'une nuit ululante aux mille merveilles. Une source d'inspiration pour le territoire mené par des amoureux de l'art et du vivant, et suivi par ses plus fervents acteurs, ses habitants. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant. Direction la Birmanie.
Des landes palissandres, mes lèzes tremblent, tremblent être noyées.